Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot. Beaucoup de turnover cette semaine à la présentation, vous l'aurez remarqué. Alors on va saluer la patronne Annie Guesnier, elle était là hier, elle reprendra sa place, son siège lundi. En attendant, nous mettons à l'honneur une autre légende. Ce jeudi, un roi orange, un héros ajacide, un seigneur Rossonero, un triple ballon d'or. Tout n'était pas mieux avant, mais célébrer le passé, c'est toujours un plaisir en matière de football. Mesdames et messieurs, Marco van Basten est à la une de notre émission. Aujourd'hui, attaquant de génie, fer de lance des Pays-Bas qui gagne, et de l'immense Milan d'Arrigo Sacchi dans les années 80-90. Personnage mystérieux néanmoins, peut-être le plus insondable des grands joueurs de l'histoire moderne. Rassurez-vous, Marco van Basten n'est pas mort. Il va bien, il n'est pas avec nous non plus. Désolé, mais ses mémoires, Basta, ma vie, ma vérité, sont désormais disponibles en français aux éditions Solar. Alors pas de Van Basten autour de la table, mais un batave de cœur avec la bave aux lèvres, intarissable quand il s'agit de parler de son idole. Bonjour, Chérif Guémour.
Bonjour Hugo.
Également avec nous, Salim Bongali. Bonjour Salim.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Comme moi, c'est un peu a posteriori. J'imagine que vous avez découvert Marco van Basten. En revanche, Étienne Moati, lui, il s'est régalé à l'époque de son adolescence devant la finale de l'Euro 88 ou les Ligues des Champions 89.
C'était pas a posteriori
90,
là.
Bonjour Étienne Moati.
Bonjour, je lui ai même appris à jouer à Marco van Basten. Hein,
c'est vrai?
Oui,
et
absolument.
Il vous cite dans ses mémoires. Malheureusement, la page a
pas
été arrachée.
Pas toutes les pages.
Je vais la retrouver, promis. Et vous nous direz à quoi ressemblait, capillairement parlant, notamment l'Étienne Moati, adolescent de 1988. Mais on gardera ça peut-être pour une autre émission. Car aujourd'hui, ce sont les choses sérieuses qui vous intéressent en tant que journaliste. Au journal L'Équipe, mon cher Étienne, il y a une forte actualité judiciaire et ou institutionnelle qui agite le monde du ballon rond ces derniers jours en Suisse, en France, en Espagne, hein, avec la plainte de la Liga contre le PSG par exemple. Et comme souvent, vous allez nous éclairer sur ces folies. Enfin, Salim Bongali, vous êtes, à ma connaissance, le seul journaliste parisien jeune qui aime la Première Ligue, mais qui n'aime pas Arsenal. Donc ça vous permettra de disserter en toute objectivité sur la sortie polémique d'Arsène Wenger sur Kylian Mbappé, la formation en Afrique ou ailleurs par rapport à la formation en Europe. Il a déclenché une sacrée polémique. Tonton Arsène, vous me rendrez, Salim, votre copie en fin d'émission. Radio Foot, c'est parti.
Passaggio Van Basten, rovesciato di Van Basten, gol, splendido gol.
Il ballon per Van Basten, ora si è franco sul ballon, che golazzo acaba di marcare Marco Van Basten.
Azione pericolosissima del Milan, dopo il tocco di Maldini, Gullit, Papin, tocca male, gol! Gol di Marco Van Basten, un po' fortunosa l'azione del Milan in virtù dello svarione di...
That's Van Basten, it's Van Basten!
Nous avons longtemps hésité entre Van Basten et Brandao, qui fête son anniversaire aujourd'hui, l'homme qui contrôle du dos, mais on a tranché. Ce sera Van Basten à l'honneur dans notre émission, un avant-centre qui ne contrôlait pas vraiment du dos, plutôt un joueur qui puait le foot, comme on dit, la classe à l'état pur, l'aristocratie du toucher de balle. Jérémy Boucher, notre maestro du jour, a bien choisi sa musique. Il a 57 ans aujourd'hui, Van Basten. Il a inscrit durant sa carrière 277 buts en 373 matchs avec deux clubs. Et quel club? L'Ajax, puis le Milan. 24 réalisations, 58 rencontres avec le maillot orange mythique, celui de son pays, les Pays-Bas. 3 ballons d'or, il a longtemps fait partie d'un cercle très fermé en la matière. 2 Ligues des Champions, 1 Euro, 3 championnats d'Italie. À l'époque, il fallait les remporter, ces championnats d'Italie. Voilà ce que pèse Marco Van Basten. Allez, encore quelques chiffres. Ce palmarès, le géant néerlandais, il l'a validé avant même ses 30 ans, puisqu'il a mis un terme à sa carrière trop tôt, la faute à des problèmes physiques. Et aujourd'hui, Van Basten, eh bien, il est relégué en page 12 dans le journal L'Équipe, dans le dernier numéro de France Football, le journal qui lui décernait jadis le ballon d'or à 3 reprises. C'est Mo Salah qui fait la une et pas le grand Marco. Il est un peu plus loin dans les pages. Son actualité de footballeur, elle est loin, évidemment. Et c'est l'écrivain, entre guillemets, qui fait parler de lui aujourd'hui. Son autobiographie écrite avec la collaboration d'Edwin Schoon, Basta, ma vie, ma vérité, est enfin publiée en français aux éditions Sola, et on remercie Jean-Philippe Bouchard. Alors, ce n'est pas une actualité extraordinaire, hein, des autobiographies d'anciens footballeurs, il y en a beaucoup. Mais là, ça concerne Marco Van Basten. Un petit mot, Sheriff Gaymour, fan du football néerlandais que vous êtes. Qu'est-ce que ça représente, Marco Van Basten? Ce n'est pas un ex-joueur comme les autres. Et c'est une personnalité mystérieuse, d'où l'intérêt peut-être de lire ce livre.
Bah, vous avez cité tous les superlatifs et les adjectifs. Il en manque un, c'est, qui pour moi résume, c'est la grâce. C'est pas le talent.
J'ai dit la classe, mais là vous êtes encore à un niveau
voilà,
au-dessus.
C'est la grâce, c'est-à-dire la gestuelle, la décomposition ultra rapide de ce qui fait un attaquant. Enfin, la gestuelle devant le but, mais qui est toujours. C'est un peu le. L'école hollandaise, que ce soit Cruyff ou Bergkamp, c'est-à-dire des gens assez lancés, toujours en équilibre, toujours dans l'équilibre parfait, le geste parfait, la décomposition parfaite et le timing parfait.
Un choc esthétique pour vous à l'époque, Étienne Moati.
Encore mieux.
Oui, c'était évidemment donc la grâce absolue, mais c'était aussi l'efficacité absolue, parce que la grâce sans efficacité, finalement, au football, ça ne sert pas à grand-chose. C'était un joueur qu'on dirait moderne, peut-être déjà un peu en avance sur son temps. Et puis, quand on repense à lui, parce que pour le coup, en effet, je l'ai beaucoup vu jouer comme shérif, j'essaie de lui trouver un défaut. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il avait absolument toutes les qualités techniques, physiques aussi, parce que c'était quand même un grand gaillard assez athlétique, avec une vitesse de pointe relativement appréciable. C'est-à-dire, il pouvait jouer à peu près donc dans tous les systèmes de jeu, parce que il pouvait jouer donc dans un système un peu vertical comme on peut les connaître aujourd'hui. Il pouvait jouer dans un système de possession parce qu'il avait une technique hors du commun. Il pouvait jouer dans un système défensif jusqu'à marquer le 1-0 à la fin du match. Voilà, c'était un joueur sublime, franchement.
Et pourtant, lui, il s'en trouve des défauts. On y reviendra. Vous êtes la caution jeune de cette émission, Salim Bonnegueli. Vous traînez constamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. C'est une addiction dans votre cas.
Bien sûr, on
le sait. Il y a souvent sur Twitter, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un peu des classements, des clashs entre les joueurs de différentes époques. Ce n'est pas toujours très intéressant, mais
non.
Le nom de Van Basten, chez les jeunes générations, il revient assez peu. C'est-à-dire que parmi les légendes, on parle d'un joueur à 3 ballons d'or.
Oui.
Messi, Ronaldo, ils ont un peu banalisé le truc, mais à l'époque, c'est énorme, 3 ballons d'or. On a l'impression qu'il est un petit peu, en termes de notoriété, un peu en deçà.
Oui, c'est bizarre parce qu'en plus, quand vous évoquez les chiffres et le nombre de ballons d'or et le nombre de buts marqués en si peu de matchs au final,
oui, c'est exceptionnel,
c'est phénoménal. Et pourtant, en plus, il a fait tout ça avant ses 30 ans, puisqu'il a arrêté à 29 ans. Donc, dit comme ça de manière brute, c'est tout simplement extraordinaire pour ne pas dire autre chose. Et c'est vrai qu'au final, on le met en retrait. Est-ce que c'est justement parce qu'il n'a pas continué sa carrière et sous-entendu, il n'était pas en France? D'autres, à cette époque-là, ont performé. Oui, autant plus que lui, enfin autant en tout cas à Milan. J'ai pas d'explication, c'est assez bizarre parce qu'en plus il fait partie de cette.
Moi j'en ai une petite peut-être.
Allez-y.
Mais juste, il fait quand même partie de cette très très grande classe des grands attaquants néerlandais. Et il est même au-dessus, entre guillemets. Les Van Nistelrooy, Van Persie qui sont arrivés après sont d'un niveau exceptionnel,
c'est
mais sont même
un.
En dessous de lui quand même.
C'est numéro 1.
Oui, très nettement. Je pense peut-être simplement parce qu'au niveau de sa personnalité, durant sa carrière, il n'y a rien qui ressort. C'était finalement un joueur assez lisse. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un joueur intelligent, mais. Je n'ai pas de souvenir de polémique particulière avec Marco Van Basten. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait clashé des partenaires, des entraîneurs. Peut-être que de ce point de vue-là, il a moins marqué l'histoire.
Grande humilité aussi, un grand champion, grande humilité.
Je vous lis du Marco Van Basten. Non, je n'ai jamais pris de crack. Non, je n'ai pas été accro à la coke pendant des années. C'est la première phrase, tout simplement. Les deux premières phrases de son autobiographie en français, parce qu'elle a été parfaitement traduite, cette autobiographie, par François Tomaso, qui est avec nous. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes par ailleurs journaliste et écrivain. Vous avez donc traduit Marco Van Basten. Vous êtes plongé dans son parcours. Il commence son livre en disant qu'il n'est pas très intéressant, qu'il s'est longtemps lui-même trouvé inintéressant. Est-ce qu'il vous a intéressé, le personnage de Van Basten, que maintenant vous connaissez par cœur?
Ah bah il m'a même énormément surpris, parce que j'ai couvert moi les matchs de Van Basten comme journaliste à l'époque. J'étais journaliste de football notamment dans les années 90. Je l'ai même interviewé plusieurs fois, et un peu comme vous, je le trouvais brillant et un peu sans saveur du point de vue de sa personnalité. Et en fait, l'intérêt de cette autobiographie, c'est ça, c'est que sa personnalité ressort et on découvre un garçon sensible et assez intelligent et très plein d'introspection. Il y a même même des passages, je dirais pas chiants, je vais pas être, mais il y a des passages où vraiment il se remet en question sur ce qu'il aurait pu mieux faire, sur les raisons pour lesquelles il a justement son relatif déficit de popularité, qu'est-ce qui était quelque chose de très important pour lui. Il voulait être le numéro 1, il le dit dès le début du bouquin. Son but, c'était d'être le meilleur joueur du monde. Il l'a été d'ailleurs. Il a été, parce que dans tous les chiffres que vous avez cités, il a été aussi le premier, je crois, ou un des premiers meilleurs joueurs du monde sacré par la FIFA. Enfin, le titre n'existait pas et la FIFA l'a créé. Et c'est Van Basten est un des premiers à l'avoir eu. Il était arrivé à ça. Et en fait, la lecture du bouquin, elle est assez tragique parce qu'elle montre un côté sombre du football que je ne soupçonnais pas, moi qui pourtant suivais ce football-là. C'est qu'en vérité, vous parlez de sa carrière assez météorique, en fait, mais elle est liée à une raison assez simple, c'est qu'il a joué pratiquement blessé toute sa carrière.
Absolument.
Le bouquin, c'est 60% sur sa cheville. Il parle de son rapport assez particulier et tragique avec sa cheville. Il a été blessé très tôt dans sa carrière. Il était encore à l'Ajax. Toute une saison quand Cruyff revient comme entraîneur à l'Ajax, il joue pas. Et d'ailleurs, Cruyff le lui reproche assez. Donc, on a déjà dans un problème d'infiltration. On en a beaucoup parlé avec Nadal, etc. Donc, il joue sous infiltration. Il essaie de revenir. Il a des opérations multiples. Et il a ce sursaut à l'Euro 88 qui fait de lui une superstar dans son pays. Et subitement, il revient à son niveau, mais au Milan, quand il signe au Milan, sa première année, il ne joue pas. Donc, si vous voulez, quelque part, son palmarès, il l'a bâti en 3 saisons, ce qui est quand même quelque chose d'assez fou. Et je pense que son déficit de popularité, il vient de là. C'est que si on regarde bien, il a joué au plus haut niveau, peut-être en 5 saisons, tout mouillé. Et du coup, il y a forcément un déficit. Il me fait penser à Ronaldo, pas Cristiano, hein, Ronaldo le Brésilien, qui a eu aussi cette traversée du désert assez longue. C'est un genre de miraculé. Et si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est quand il y a de longues, longues pages sur sa cheville, sur sa souffrance. C'est un garçon qui est aussi une victime du football, parce que qui était sa passion, hein, sa raison de vivre. Mais il y a les 2 années après l'arrêt de sa carrière, je vous rappelle son dernier match. Est un match qui me tient à cœur puisque c'est
contre l'OM,
jamais les premiers.
Contre l'OM.
L'un des matchs les plus importants du foot français.
Je vais en revenir là-dessus. Ouais.
Finale de la Ligue des Champions en 93.
Tout à fait. Et donc il s'épasse que c'est son dernier match, mais c'est voilà, il ne sera plus jamais dans un grand stade comme il a été. En plus, il avait joué dans ce stade de Munich dans d'autres circonstances, justement à l'Euro 88.
Où il marque un but incroyable.
Et après c'est terminé. Après, sa carrière est finie et pendant 2 ans. Et ça, c'est des pages assez poignantes. Vous avez un garçon qui est chez lui et qui rampe pour aller aux toilettes. Quoi. Pendant 2 ans, c'est un type qui a été le meilleur joueur de football du monde, adulé par les foot, comme vous disiez, la classe, etc. Et il raconte ces pages, c'est celles-là qui sont poignantes. Il raconte pendant de longues pages comment il marche à 4 pattes pendant 2 ans. C'est quand même un truc abominable.
François Tomazo. Oui, excusez-moi, Sheriff Guémour veut réagir à ce que vous êtes en train de...
Ah oui, lors de la finale Milan-OM de 93 à Munich, parce que j'ai rencontré Basile Boli qui m'a raconté ça, il s'en voulait énormément d'avoir séché Van Basten, parce que pour Basile, il pensait que c'est lui qui avait mis fin à la carrière de Van Basten.
En fait, Basile, il dit ça de tous les attaquants qu'il a séché en même temps.
Oui, non, mais parce qu'en fait, il n'est jamais revenu ensuite après Van Basten. Donc, et en fait, Basile Boli ne savait pas que déjà, il était déjà atteint. Par contre, ce qui est intéressant, cette blessure intéressante entre guillemets, c'est à la suite, la FIFA a interdit le tacle par derrière. C'est juste pas en l'honneur de Van Basten, mais comme il a été séché très tôt et qu'il a été perdu pour le foot très tôt, c'était la mégastar fin des années 80, début des années 90, on a aboli, enfin je veux dire sanctionné d'un carton rouge le tacle par derrière.
Un peu martyr quelque part du football, Marco Van Basten. François Tomazo, les blessures un peu plus tôt dans son parcours et même dans sa vie, je voudrais que vous me parliez de son enfance. D'où vient-il aux Pays-Bas? Quelle est un peu sa culture? Et peut-être nous raconter aussi un drame fondateur peut-être dans son parcours de vie durant son enfance.
Oui. Alors c'est un gamin d'Utrecht. Hein. Utrecht, c'est une très grande ville universitaire qui a un club de foot assez correct, hein, le FC Utrecht, dont il est d'ailleurs il était un supporter. Il en a même été après l'entraîneur. Il a été entraîneur dans pas mal de clubs à la fin de sa carrière.
Après sportive, sa carrière après de, sa traversée, de
du, ouais, et après sa traversée du désert aussi, qui a duré comme un certain temps, où il s'est remis au golf. Et il était le son père était joueur d'assez bon niveau. C'était pas, on va dire, semi-pro. L'organisation du foot en Hollande est assez particulière. C'est un petit pays fou de foot, et son père était déjà joueur, son père était défenseur d'assez bon niveau et entraînait les jeunes. Et il avait reporté vraiment. Alors, Marco avait un frère aîné, une sœur aînée qui avait été un peu négligé. Son père s'est vraiment focalisé sur Marco pour en faire un joueur de football. Et donc, il a été dès son plus jeune âge poussé vers ça. Et bien évidemment, très vite, il s'est avéré qu'il était un joueur hors du commun. Sinon, c'est un garçon, oui, assez ordinaire. Il raconte aussi un drame assez, alors, vis-à-vis de ses parents. Donc, il y a la pression du père qui est vraiment. Il ne parle que de foot. Avec son père, il le pousse. Mais vraiment, il n'y a que ça qui l'intéresse, ses résultats scolaires.
C'est un peu le profil, totalement. C'est un peu le profil de Verstappen. Le père de Verstappen, oui, c'est pareil. Il l'a poussé dans la
finale de Formule 1.
Non, mais c'est la même folie familiale.
Et oui, ce drame, François Tomaso, un ami, alors qu'il est tout gamin, qui meurt sous ses yeux.
C'est ça. En fait, il a deux drames dans sa vie. Le premier, c'est qu'une fois, il part se promener avec un gamin, un copain à lui, et ils sont nés aux Pays-Bas. Ils arrivent sur un lac glacé. Vous savez qu'aux Pays-Bas, on aime beaucoup le patinage sur glace et ce genre de choses. C'est presque le sport numéro un. Et ils se sont aventurés, bien évidemment. Enfin, son pote s'est aventuré sur l'étang qui était gelé. Forcément, il est passé à travers. Et Marco Van Basten est resté là, incapable de rien faire, sinon d'appeler les secours. Et il s'en est voulu assez longtemps de cet événement dans sa vie. Et le deuxième événement important, c'est que sa mère, dont il était très proche, avec qui il avait plein de discussions et qui était la personne qui le sortait du football, avait des petits problèmes mentaux. Elle a été internée alors qu'il était assez. Quand il a commencé à faire sa carrière pro, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Elle y est morte pratiquement. Et donc, ça a été un gros manque dans sa vie. C'est comme il dit, un peu la disparition de sa mère qui est sortie de sa vie parce qu'elle avait ses problèmes mentaux, alors que lui, au départ, il avait un lien très fort avec. Donc c'est un garçon, si vous voulez, on voit la classe, on parle du Marco Van Basten qu'on voit très bien avec ses reprises de volée incroyables et sa capacité comme ça à anticiper les choses et cette grâce, comme vous disiez tout à l'heure, mais sa vie, elle est assez, elle est vraiment entachée de pas mal de tragédies, et c'est ce côté-là qui rend ce bouquin très humain, c'est qu'on voit pas que le feu de la rampe, on voit aussi toutes les coulisses qui ne sont pas si
reluisantes, effectivement. Alors, on va parler football. Donc, Utrecht, c'est là qu'il grandit, qu'il est né. 80-87, 1900, bien sûr. Ce sont ses années à l'Ajax. Il arrive assez tard. Et,
17 ans.
Et quelque part, il arrive, c'est encore, on sent encore opérer tout le charme des années 70, cette grande Ajax de Cruyff. Il est de la génération qui doit succéder à Cruyff et qui va même côtoyer encore Cruyff, qui est encore joueur ou qui va être entraîneur.
C'était son idole. Donc, quand il est arrivé, Cruyff jouait encore. Ensuite, il a joué avec lui, peut-être pas en équipe première, parce qu'il arrive un peu tard en équipe première. Enfin,
mais il l'aura eu comme entraîneur, c'est ça ?
Il a eu ensuite comme entraîneur. Et comme Johan Cruyff débutait dans le métier, c'était quelqu'un d'assez tyrannique. Alors, Van Basten, on en parle dans le livre, hein, d'après ce que j'ai vu. Hein,
Oui, bon, il y a pas mal d'extraits.
Ça ne s'est pas toujours très bien passé avec Cruyff. Bon, pour des trucs du genre, on connaît les méthodes de Cruyff, les méthodes de l'Ajax. On fait jouer l'attaquant défenseur pour prendre conscience de tous les postes. Van Basten détestait ça. Lui, c'était un numéro 9, c'était un attaquant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme c'était les débuts de Cruyff en tant qu'entraîneur, tous les joueurs se sont fâchés avec lui. Il n'y a pas que Van Basten. Koeman en avait marre, il s'est barré. Et Rijkaard en avait marre, ils se sont barrés. Ils sont tous barrés. Hein.
Ils se sont
la tête de Johan Cruyff.
Barré, Rijkaard, Van
Mais
Basten.
Par contre, résister à Cruyff, c'est forcément qu'on a une grosse personnalité.
On a du tempérament.
Voilà, c'est ça.
Il se barre, Rijkaard, Gullit et Van Basten dans un club.
Non, pas Gullit. Gullit, c'est Feyenoord.
Ah, pardon, enfin, c'est Feyenoord. Mais disons que Rijkaard et Van Basten vont jouer avec Gullit dans un club italien qui porte les couleurs rouge et noir, le Milan AC, Arrigo Sacchi, l'ère Berlusconi, une Dream Team et deux Ligues des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions 89-90, un système révolutionnaire Étienne Moati, Salim Bongali, là on est en plein de plein pied dans la légende avec cette équipe-là.
Oui, absolument. C'était l'époque où il y avait 3 étrangers par club, donc il fallait bien les choisir. On va dire qu'au Milan SL, les avait particulièrement bien choisis. Non, parce que ça paraît évident a posteriori, mais au départ, il y avait d'autres joueurs qui auraient pu être sélectionnés. Mais Arrigo Sacchi connaissait un tout petit peu le football, et donc il a réussi donc, à monter avec les Italiens et avec ces trois-là une équipe absolument fantastique qui a gagné beaucoup et surtout qui a apporté, révolutionné même un petit peu le football avec le hors-jeu, donc joué de manière absolument incroyable, et puis une équipe puissante, technique, tactique et collective à la fois. Donc franchement, c'est des joueurs qui ont su aussi, ce qui n'était pas le cas de tous les Néerlandais, donc s'adapter à un autre football et gagner ailleurs.
Ouais. Juste précisément sur Van Basten, c'est vrai que quand on évoque donc, les chiffres avec les buts notamment marqués, là où on apprécie encore plus quand on voit ces vidéos de Van Basten et de ces buts-là, c'est tous les types de buts qu'il est capable de marquer. Alors, les buts de génie, finale de l'Euro, je me souviens d'un retourné, ça devait être face à Göteborg de mémoire avec Milan en Ligue des Champions, une retournée acrobatique absolument...
Sa dernière saison.
Absolument magnifique, de la tête très bien positionnée. Enfin, il savait marquer, on évoquait tout à l'heure le fait qu'il pouvait jouer dans tous les systèmes devant, mais il pouvait marquer dans toutes les positions aussi. C'est pour ça qu'encore plus, tous les jeunes auditeurs qui nous écoutent, aujourd'hui on parle de Haaland, de Mbappé, à juste titre, parce que ce sont des attaquants exceptionnels, mais Van Basten, à une certaine mesure, est de ce type-là, voire même à un certain niveau au-dessus, lui il a eu 3 ballons d'or.
Voilà, c'est un peu
il préfigure les attaquants.
Les attaquants dits modernes, la fameuse expression. Et si je comprends bien, on regarde ces highlights, comme on dit, ces meilleurs buts, et on a presque toute la panoplie de l'attaquant parfait. Un attaquant qui marque en finale. On reproche parfois ça aux grands buteurs. Finale de la Coupe des Coupes 87 avec l'Ajax, il marque. Doublé en 89 contre Steaua à Bucarest. Et évidemment, son but célèbre, pas avec le maillot du Milan ni de l'Ajax, mais avec le maillot orange des Pays-Bas.
Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
Van Basten, qué golazo. Qué golazo acaba de marcar Van Basten. Qué volea, qué golazo de Van Basten a los 9 minutos del segundo tiempo.
Worked out wide to the left for Muren. Deep cross. Here's Van Basten waiting for it. Tries his luck. Oh, what a goal! How on earth did Marco Van Basten score from there? It's 2-0 now to the Netherlands. And surely they're on their way to their greatest ever prize.
Dans toutes les langues, on a vécu un très grand moment avec ce but du 2-0 en finale de l'Euro 88 à Munich pour les Pays-Bas contre l'URSS. C'est un peu une autre époque. C'est avec lui, Gullit et Rijkaard, et Koeman aussi, Ronald comme son frère d'ailleurs, que les Pays-Bas remportent leur seul titre international. François Tomaso, est-ce que ça a fait de lui quelqu'un de très spécial aux Pays-Bas? Parce que les Pays-Bas, ça ne gagne pas avec Cruyff, ça n'a pas gagné avec Bergkamp ou Kluivert, toutes ces d'or, ça n'a pas gagné avec Van Persie, Schneider et Robben, ça a gagné avec Van Basten, et Gullit et Rijkaard. En 88.
Alors oui, alors bien sûr, je dirais que c'est le numéro 2 dans l'esprit des Néerlandais au niveau du football. Il y a le dieu Cruyff, on en parlait tout à l'heure, mais il y a eu vraiment une relation paternelle avec Cruyff d'amour-haine. Ils se sont fâchés, ils se sont rabibochés, mais il y avait un vrai. Et d'ailleurs, Cruyff rêvait d'en faire un Cruyff. Il voulait qu'il joue plus bas, il voulait qu'il joue milieu offensif, ce que d'ailleurs Van Basten aurait pu faire. Ouais, mais alors par la suite, en effet, alors c'est un peu marrant parce qu'il avait une popularité assez exceptionnelle. Après, on lui a quand même reproché d'être parti au Milan, puisque à l'époque, comme vous le disiez Étienne, les transferts étaient moins fréquents qu'aujourd'hui. C'était limité à 3 en Italie, et on lui a vraiment reproché de ne pas être resté à l'Ajax. On aurait préféré, enfin les fans de l'Ajax auraient préféré qu'il reste au club. Donc il y a eu un peu ça, et sa réputation a été un peu entachée aujourd'hui par sa carrière d'entraîneur un peu, on va dire, moyenne. Il y a eu des bons moments et d'autres moins bons. Il a été sélectionneur national, il a entraîné pas mal de clubs de tout niveau aux Pays-Bas. Et Il n'était pas fait pour ça. C'était vraiment, et on le sent dans le bouquin, c'était vraiment un buteur dans l'âme. C'était son truc, c'était de marquer des buts et de gagner des titres, comme il le dit. Et le côté réfléchi de l'entraîneur, ça lui, je parlais tout à l'heure de son côté un peu tragique, il le disait lui-même, il a arrêté d'entraîner parce que les veilles de match, il avait un fantôme qui le visitait, il faisait des insomnies, il n'arrivait pas à dormir. Les défaites, il lui fallait une semaine pour s'en remettre. C'était vraiment un gagnant. Et ça a fait que finalement, je pense que du point de vue des Néerlandais, Van Basten, une personnalité assez trouble, assez complexe. Et pour revenir au fameux but de 88, et pour revenir aussi à ce côté élégant qu'on lui trouvait, il le dit lui-même, il se tenait comme ça de cette posture assez digne, un peu debout, un peu.
Simplement, François Tomaso, parce que j'ai un peu oublié qu'on était à la radio, mais on va simplement le raconter ce but, parce que c'est vrai que. Tout le monde ne l'a pas en tête. Il reçoit un centre de la gauche. Il est excentré, dos au but. Dans le
coin
côté
gauche, des 6 mètres.
Pas un très bon centre, d'ailleurs. Un centre, voilà, un
il
centre
le dit dans son livre.
Qui flotte un peu comme ça dans la surface. Et il se dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas trop comment le réceptionner. Il dit, bon, ben, j'ai pas 36 solutions. Je vais taper dedans. Et il le prend. Il prend le ballon. Alors, il le reprend comme il vient. Quoi, et le ballon prend une trajectoire très particulière, et en fait il dit après, si j'avais pas déjà eu une opération à la cheville, et parce qu'il avait donc déjà plus de mobilité complète à sa cheville, mon coup de pied aurait été différent, le ballon partait à coup sûr dans les tribunes, et en fait sa blessure elle explique sa posture. Il se tient très droit parce qu'il a des problèmes à la cheville, et sa manière de frapper ce but ce jour-là tient aussi de cette fameuse cheville fracturée. Donc comme il le dit, lui-même d'ailleurs, c'est un peu un genre de revanche divine, c'est que cette cheville qui le handicapait à tel point lui a permis d'inscrire un but totalement fabuleux.
Alors on va aller assez vite sur son parcours d'entraîneur, c'est aussi l'autre vie dans le football de Van Basten, c'est un peu moins brillant, il commence très haut, hein, le privilège des grands, mais n'est pas Zidane qui veut, il commence avec tout simplement le banc de son pays, les Pays-Bas, un mondial 2006 moyen, 8e de finale, et un début d'Euro 2008 absolument incroyable, je crois qu'on s'en souvient encore en France. Oh, here comes in, and it was the man behind it who got the touch. And it's Dirk Kuyt of Liverpool who puts Holland in front after 9 minutes. And they've got Van Persie coming in as well. Van Persie! It's 2-0. Oh, he's squeezing it from there. Astonishing. Is Van Persie. Schneider! Oh, he's made it four! In flamboyant style, with a final score of Holland 4, France 1. Voilà, début de l'Euro 2008 en Suisse et en Autriche, les Pays-Bas marchent sur l'Italie championne du monde en titre, 3-0, et puis sur l'équipe de France vice-championne du monde en titre, 4-1, avec des joueurs... qu'on connaît bien désormais, Schneider, Van Persie, Robben. Il sera un peu sans lendemain, ce coup d'éclat, humiliation un peu sans lendemain.
Ils ont été champions d'Europe au premier tour. Tout le monde les voyait.
Après, éliminés par la Russie,
la Russie
au tour suivant.
Ouais,
mais sauf que l'entraîneur, c'était Idiic.
Un autre néerlandais.
Il connaissait l'équipe des Pays-Bas
sauf
par cœur.
Et aussi, derrière, les Schneider, Robben, Van Persie, ils vont en finale de la Coupe du Monde en 2010. Est-ce qu'on peut le dire qu'il a un petit peu préparé le terrain pour une autre grande génération?
En même temps, aller en finale pour les Pays-Bas et perdre, c'est la règle quand même dans ce pays-là. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que Van Basten, donc, évidemment, il a fait une carrière très moyenne d'entraîneur. Et derrière, il devient aussi donc, directeur du football à la FIFA.
C'est ça.
On l'a peut-être un peu oublié. Mais
je l'avais même oublié en préparant cette émission.
En provoquant quelques polémiques, notamment donc, sa grande proposition, c'était de supprimer le hors-jeu tout simplement. Finalement, il n'est plus aujourd'hui... Donc, directeur du football à la FIFA, et on va dire qu'il a quand même un petit peu étonné avec cette proposition et quelques autres qui étaient relativement iconoclastes.
Alors que lui, on aimait le voir positionné soit à la limite du hors-jeu, justement, pour être faire les bons appels.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un excellent joueur de golf. Très très vite, il a été classé.
Comme beaucoup de footballeurs en même temps.
Ouais. Non, mais
ils sont pas tous bons.
Lui était très très bon. C'est limite pro quoi. Mais comme il arrivait un peu tard. Excellent joueur de golf.
François Tomaso.
Il était bon partout, en fait.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot sur ce que vous venez d'entendre. L'entraîneur, le golfeur Van Basten, le entre guillemets, le senior Van Basten, 57 ans aujourd'hui. L'étoile a un peu pâli peut-être à cause de cette carrière d'entraîneur moyenne, oui, mais peut-être que les gens vont apprendre à découvrir la personnalité avec le livre.
Tout à fait. Je pense que c'est un personnage atypique et c'est aussi pour ça qu'il n'a pas réussi comme entraîneur. Il avait des idées très très précises et je pense que c'est vraiment l'émule de Cruyff. Il s'est vraiment inspiré de ça et ses idées un peu iconoclastes. Cruyff en avait pas mal aussi. Hein. Si Cruyff avait été à la FIFA, on aurait rigolé. Donc je pense qu'il est resté comme ça, très très brut. Et c'est une personnalité vraiment attachante. J'ai fini de traduire le bouquin avec vraiment l'impression d'avoir fait une rencontre avec une personnalité humaine beaucoup plus riche que je ne le pensais en commençant à traduire. Voilà.
Eh ben, on a hâte de partager votre découverte grâce à votre traduction. Basta, ma vie, ma vérité, l'autobiographie de Marco Van Basten avec Edwin Schoen pour l'écriture en néerlandais. Alors ça, c'est si vous y arrivez, je vous laisse tenter. Moi, je ne m'y risquerai pas. Je préfère la traduction de François Tomaso. Merci d'avoir été avec nous. C'est aux éditions Solar. Merci à Jean-Philippe Bouchard de nous avoir amené le bouquin à vélo tout à l'heure à RFI. Shérif, il vous reste 30 secondes pour conclure sur Van Basten.
Le but qui marque contre l'URSS en direct, c'est un pur moment de magie. C'est... personnellement, l'un des plus beaux buts que j'ai eu, mais en direct, hein, parce qu'après, on peut le revoir et tout, ok, d'accord. J'ai vu des grandes actions de Maradona, de Pelé, de tous les grands. Ce moment de magie pure, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il faut savoir que le but qui marque contre l'URSS et l'autre but qui marque, surtout contre l'Allemagne en demi-finale, ça a mis fin à la haine et la rancune des Hollandais pour les Allemands. Ils ont gagné à Hambourg, ils ont battu l'Allemagne chez elle, c'était la revanche de 1974. Et à partir de là, aux Pays-Bas, la haine des Allemands, des Hollandais, il faut vraiment parler de haine, elle s'est estompée. On les a battus chez eux, un partout, balle au centre, on va en finale, on gagne l'Euro, notre premier et notre dernier titre, et ça a beaucoup apaisé la société néerlandaise. Et Van Basten a été l'acteur entre guillemets, de cette réconciliation.
Il avait presque tenu, mais il a craqué sur la fin en disant « nous » pour parler de l'équipe des Pays-Bas. Secondes. Merci beaucoup, Shérif Guémoin.
Monsieur le juge, regardez-moi. Est-ce que j'ai une tête de crapule ?
L'heure de la justice a sonné. Vous n'échapperez pas au châtiment.
Justice doit être rendue. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'était pas Javier Tebas que vous venez d'entendre. Ça aurait pu. Le patron de la Liga, Étienne Moati, passe de nouveau à l'offensive contre le PSG. Manchester City est également dans son viseur. La Ligue de football espagnole qu'il dirige, ce monsieur qui a fait depuis 2017 du combat contre le PSG, le combat pratiquement de sa vie, a donc fait déposer plainte à son instance auprès de l'UEFA. Donc contre le PSG, selon lui, ce club et Manchester City enfreindraient continuellement le règlement actuel du fair play financier. Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux, cette action de Javier Tebas, avec des avocats mandatés, notamment en Suisse et en France, pour essayer d'aller observer tout ce qu'il est possible de faire pour embêter tout simplement le PSG, même un peu plus?
Quand vous dites cette action, en fait, ce sont ces actions, parce qu'il y a en effet celle, on va dire, assez classique devant l'UEFA. D'ailleurs, il l'avait déjà fait en 2017. La Ligue avait déjà donc fait une...
C'est l'époque du transfert de Neymar. Hein. C'est
et de Mbappé, donc, qui viennent à Paris pour plus de 400 millions d'euros. Donc, il y a une plainte qui est faite par la Liga. Et en effet, il y a l'ouverture d'une instruction du côté de l'UEFA qui conduit à des sanctions qui n'arriveront pas, puisque finalement, tout ça avait pris trop de temps. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'il y a aussi des plaintes qui vont être déposées en France, qui vont être déposées en Suisse. On se demande où il n'y aura pas de plainte contre le PSG et Manchester City. Celles-là me paraissent plus étranges, parce qu'il faudrait déjà qu'elles soient totalement recevables, parce qu'on vient critiquer des règlements, on va dire, européens avec des juridictions françaises.
Mais c'est tous azimuts, hein, d'après ce
où elles ne sont pas, où elles n'existent pas.
Voilà,
donc on va dire que là, il y a un petit peu de communication, de mon point de vue, qui est fait autour de ça. Mais en revanche, du côté de l'UEFA, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, bien sûr, il y a eu la période Covid, Nîmes a perdu beaucoup d'argent, 224 millions d'euros. Donc la saison dernière, ça fait quand même beaucoup. Et il y a de toute façon donc une demande d'information, de toute façon, qui avait été faite par l'UEFA auprès du Paris Saint-Germain. On va voir vers quoi ça débouche.
Dans le cadre du fair play financier, rien absolument à voir avec l'action de Javier Tebas et de la Ligue espagnole.
Ça correspond un petit peu aux mêmes raisons, mais en tout cas, évidemment, c'est un club qui, par le passé, mais encore aujourd'hui, est particulièrement observé par l'UEFA.
Et il parle aussi, Javier Tebas, des conflits d'intérêts. Nasser Al-Khelaifi, qui est à la fois président de beIN Sport, qui est à la tête de l'instance des grands clubs européens.
C'est pas faux. À partir du moment où
président du PSG, bien sûr.
À partir du moment où on est président d'un club et qu'on est aussi partie prenante à un grand média audiovisuel, il y a forcément des doutes, des suspicions. Mais pour en venir à Tebas, il défend tout simplement les intérêts du football espagnol. Le football espagnol qui est un peu mis à mal, même si le Real a gagné la Ligue des Champions. Il fait son boulot. Il est président de la Fédération espagnole, donc il défend les intérêts des clubs espagnols et de la sélection espagnole.
Mais là, on a l'impression qu'il s'en prend aussi au modèle du PSG de City, c'est-à-dire la fortune venue du golf, voire le fonds souverain dans le cadre du Paris Saint-Germain, qui vient transfigurer un club et fausser, selon lui, la concurrence.
Tebas, comme d'autres clubs d'ailleurs, le Bayern à un moment donné, et d'autres aussi, sont dans ce discours-là. Absolument, sont dans ce discours où on veut à tout prix être contre, ou en tout cas critiquer à tout va le PSG, City. Newcastle a déjà été un petit peu critiqué, le sera peut-être davantage par la suite en fonction de ce qui se passe. Bref, tous ces fonds qui viennent du golf sont critiqués parce que ce sont des fonds extrêmement importants qui, selon eux, viennent fausser le marché. Donc Tebas, et Chérif l'a dit, il est là aussi pour défendre sa ligue. Après, le fait-il bien, ça c'est autre chose.
On parlait de Van Basten en début d'émission. On peut aussi parler d'un autre ancien grand joueur et triple ballon d'or. Je ne l'ai pas cité en début d'émission. C'est évidemment le français Michel Platini, qui était l'ancien président de l'UEFA, qui a même créé, qui a incarné en tout cas l'instauration du fair play financier, et qui risque 1 an et 8 mois de prison avec sursis dans la fameuse affaire du versement suspect datant de 2011, c'est ça. Versement effectué à Platini par Sepp Blatter, qui était alors président de la FIFA, pour des travaux de conseiller fin des années 90, début des années 2000, sans trace écrite, mais avec, à la faveur d'un fameux contrat oral. Blatter risque la même chose que Platini. Si la décision du tribunal suisse qui s'occupe de l'affaire est conforme aux réquisitions du procureur, pour rappel, le contexte, Platini devait succéder à Blatter à la tête de la FIFA. Les deux hommes ont été balayés en 2015, dans la suite du FIFA Gate, le grand scandale de corruption. Platini, Blatter et cette affaire, on arrive vers une possible conclusion. C'est pas terrible là pour Platini. A priori, les réquisitions sont assez violentes.
Oui, mais en même temps, c'est à double tranchant parce que depuis des années, Michel Platini clame son innocence, explique qu'en fait c'est un complot contre lui parce qu'il devait devenir le président de la FIFA à la place de Sepp Blatter. Vous présumez beaucoup de ce qui sera la décision du tribunal suisse.
Non, j'ai dit, s'ils suivent les...
Voilà, donc ce sont les réquisitions. Il y a les avocats qui vont plaider aussi. Et je dirais que pour Michel Platini, évidemment, s'il y a une condamnation, finalement, ça actera, même s'il fera sans doute appel, que quand même, tout ça avait quand même un sens et qu'il n'était pas le chevalier blanc qu'il prétendait être. En revanche, s'il parvient à sortir de ce dossier de manière favorable, puisqu'il y a aussi eu, et ça a été relevé pendant les audiences, un comportement assez suspect de la FIFA, du procureur avec Gianni Infantino, donc qui finalement est devenu président de la FIFA, qui était l'ancien bras droit de Michel Platini, et que finalement on considère qu'il y a eu aussi des choses qui ont été faites contre lui et qu'il en sort finalement indemne, il pourra revenir dans cette position de chevalier blanc et laver son honneur.
Voilà, on vous a rejoué dans une fiction radiophonique made in RFI, le procès donc de Bellinzone. J'étais dans le rôle du procureur, l'avocat de Platini, Étienne Moati, excellent comme toujours dans ce rôle. Aujourd'hui, Platini n'est plus le président de l'UEFA. C'est le Slovène Seferin qui occupe cette fonction, un poste qui apparemment peut rendre fou. Seferin, il va réformer la Ligue des Champions, une réforme qui ne plaît à personne, qui sera effective à partir de septembre 2024, en tout cas de 2024, avec un nombre de matchs déjà très élevé par rapport à l'édition actuelle, avec en plus, et ça c'est une exclusivité Étienne Moati pour le journal L'Équipe, un tournoi estival d'ouverture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ouais, c'est une triste histoire de mon point de vue parce que on a le sentiment que déjà du football, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Quand on voit les matchs de Ligue des Nations qui se sont terminés avec un triste spectacle, des joueurs donc exténués, des blessures, etc. On n'imaginait pas qu'on allait encore rajouter des matchs. Il y a deux matchs de plus dans la phase initiale de la Ligue des Champions et ce tournoi donc qui ressemble entre guillemets à ce que pourrait être. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de les faire disputer aux États-Unis avec un petit voyage en plus, quatre matchs avec le vainqueur de la Ligue des Champions et puis trois autres équipes dont on ne sait pas très bien sur quels critères elles seraient choisies.
Il faut qu'elles soient
connues. Ça ressemble un petit peu au mauvais côté de la Super League européenne que l'UEFA critique.
C'est l'UEFA combat la Super League en faisant sa Super League.
Mais donc créons-la. Voilà. Finalement, financièrement, c'était pas si mal leur truc. Alors on va pas les laisser faire, mais en revanche, on va créer la nôtre. Comme ça, l'argent va être pour nous. Mais c'est vrai que ça donne l'impression d'être cette fameuse... Rappelez-vous, il y a quelques années, l'International Champions Cup, ce tournoi estival qui avait lieu sur trois continents. Ça donnait...
Souvent en Amérique du Nord, d'ailleurs.
Absolument,
donc,
Amérique du Nord.
C'était vraiment de l'exhibition, du marketing.
Il y a eu des bons matchs, attention.
Oui, mais bon, c'était en été et les joueurs n'étaient que dans leur phase de préparation, post-préparation simplement. Juste, je rappelle qu'en 2024, si ce tournoi a lieu, il y a l'Euro.
Il aura lieu parce qu'en fait, il figure dans l'appel d'offres. Absolument. Été adressé aux chaînes, c'est-à-dire que donc les chaînes pourront dire de toute façon, nous, on a acheté aussi cet élément-là, donc maintenant, il faut nous le donner.
Il y a quand même l'Euro qui se termine le 14 juillet. Je rappelle aussi pour certains joueurs, et je pense à certains Kylian Mbappé, parce que parmi les critères, ce sont peut-être des grands noms. Mbappé, où sera-t-il ? Il y a les Jeux Olympiques aussi dans cette période-là.
J'ai fait un article dessus aujourd'hui dans SoFoot.
Imaginez un instant que le PSG vienne à devoir participer à ce tournoi sans Mbappé. Ben, en termes d'image, les chaînes diront « Mais attends, il n'y a pas les meilleurs joueurs au PSG ou dans d'autres clubs. » Ça fera tâche. Mais...
Séphérine, comme Tebas, c'est l'un des visages de la lutte contre, entre guillemets, contre la Super League, hein, ce fameux projet finalement enterré pour l'instant. Et... comme on le dit, finalement, on a l'impression que les mauvais côtés, les inconvénients de la Super League sont totalement récupérés par ceux qui la combattent.
On va rappeler que la Super League, la plupart des grands clubs ne lâchent pas l'affaire. C'est pas définitivement enterré. Je dis pas que ça va se faire. On se calme, Étienne. Je dis pas que ça va se faire. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Et la deuxième chose, c'est moi, je pense que la crise du Covid a généré du foot l'été. Ça s'est plutôt bien passé.
Du Final Four de la Ligue des Champions.
La reprise des championnats aussi. On a su que c'était possible de diffuser du football l'été, c'est-à-dire avec les championnats qui reprennent. Je ne parle pas de la santé des joueurs, c'est absolument épouvantable.
C'est ce que j'allais vous dire
Non, mais on est d'accord. Mais la fin des championnats, certains championnats, je pense, son championnat d'Espagne, championnat d'Italie qu'on repris. Bon, après, les stades étaient vides, mais c'était quand même... On a vu qu'on pouvait, hors Euro... hors Coupe du Monde, proposer du foot en juillet et en août avec des très bonnes audiences TV. Donc, mettre un petit tournoi américain aux États-Unis avant la reprise du championnat et tout, bingo quoi.
Mais sans se demander ce qu'en pensent les spectateurs qui n'étaient pas là ou les joueurs.
Donc absolument. C'est quand même une conception
intéressante, le dernier mot là-dessus.
Quand cela va être officialisé, entre guillemets, puisque vous l'avez dit, Étienne, c'est dans l'appel d'offres, donc quand les chaînes détentrices, en tout cas, acteront l'achat de la Ligue des Champions, des Coupes d'Europe et donc de ce tournoi, ben là, il faudra voir l'attitude des joueurs, pour le coup. Parce qu'au final, ce sont eux aussi les premiers concernés, en tout cas, ben, ceux qui sont sur le terrain et qui vont voir les matchs s'enchaîner, les reprises être, ou les périodes de vacances être ultra courtes pour devoir reprendre, etc. Est-ce que les joueurs, à un moment donné, eux-mêmes vont réagir et vont dire « Ep, ep, ep ». De Bruyne, on l'a souvent entendu pendant la Ligue des Nations, ou même avant, dire « Ces matchs-là, j'en veux pas », et d'autres joueurs également. Ben, est-ce que certains joueurs vont demander, je parle des leaders, hein, les grands capitaines ou d'autres.
Maradona devra intervenir ce coup-ci.
Non, mais sérieusement, joueurs qui, eux, se diront, là, je peux pas. En fait, c'est pas possible.
Par exemple, on a eu la Ligue des Nations jouée en queue de saison avec la Coupe du Monde qui arrive avec sa fameuse.
Oui, mais dans quel état ?
Avec cette fameuse Coupe du Monde au Qatar l'hiver. Donc là, on est déjà à un test de. Un bon test de saturation en termes de saturation des calendriers, Étienne. Est-ce que l'UEFA peut vraiment aller au bout de ce genre de projet, une énorme Ligue des Champions avec un tournoi d'ouverture avant?
Mais oui, ils iront au bout parce que de toute façon, les dates, elles sont préemptées par l'UEFA, c'est-à-dire que les championnats nationaux doivent s'adapter et qu'à partir du moment où l'UEFA et la FIFA rajoutent des dates au calendrier, et ben, sont aux championnats nationaux et éventuellement de réduire leur nombre de clubs en Ligue 1. C'est ce qu'a fait la France qui est passée à 18 et ce que feront sans doute les autres championnats européens dans les années qui viennent.
Question technique, Étienne, est-ce que la FIFA est partie prenante à ce projet?
Ah non, pas du tout. Quand l'UEFA fait quelque chose, en général, ils ne consultent pas la FIFA.
Non, non, pour nos auditeurs, c'est du 100% UEFA.
Ouais, absolument, oui.
D'accord. Non, du côté de la FIFA, on a aussi ces folies et ces déclarations incendiaires, je vous rassure. Hein, on a de la matière.
Oui, la FIFA va réagir.
Ah, je sais pas. Vous voulez dire avec un mondial des clubs
Ça c'est déjà fait. Ça c'est acté. Ouais, c'est acté. N'oubliez pas, en juillet et en août, on peut programmer du foot.
Oui, du moment qu'il n'y a pas de Cannes, mais on peut décaler les Cannes. Ça c'est pas le problème. On revient à la FIFA avec Arsène Wenger. Donc vous suivez là, Arsène Wenger. FIFA, qui occupe un poste qui était un peu celui de Van Basten, directeur du développement. Donc vous suivez toujours. Bon, ouais. Wenger, pourquoi est-ce qu'il déclenche la polémique? Il a déclaré fin mai à Fribourg, en Allemagne, lors d'un congrès d'entraîneurs, Kylian Mbappé a des origines africaines, mais il a été formé en Europe. S'il était né au Cameroun, il ne serait pas devenu ce joueur. Il y a l'Europe et le reste du monde. Et le reste du monde a besoin d'aide, sinon nous perdrons trop de talents. Il parle de la détection, du développement, de la formation. Ça n'a pas du tout plu, notamment au président de la CONMEBOL, qui explique en gros, je vous la fais vite, que Wenger fait preuve d'européanocentrisme, d'ethnocentrisme, et qu'il y en a marre, qu'on ne respecte pas les Sud-Américains, les Africains, et qu'on voit tout uniquement aux frontières de l'Europe en matière de football. Cher Guémour.
Deux choses. Ça part entre guillemets d'un bon sentiment, comme quoi il faut aider l'Afrique au niveau de la formation.
Bon sentiment ou paternalisme? C'est ce qu'on reproche aussi à la FIFA.
J'y arrive. Et le truc qui est un peu gênant, il parle de Kylian Mbappé comme d'un joueur africain. Non, c'est un Français, il est né en France, il a été formé.
Son père
en
est
France.
Camerounais, mais.
Donc il y a mini dérapage, quoi. Donc on peut comprendre, même si je pense que c'est un peu surjoué de la part de la CONMEBOL. Non, Kylian Mbappé, il n'est pas d'origine. Oui, il est d'origine africaine, d'accord. Son père, c'est. Ok, d'accord. Non, il est français. Il a été formé en France. L'exemple était très mal choisi.
Et ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, qu'il le prenait comme exemple, Mbappé. Mais sur le fond, sur l'histoire, il n'y a qu'en Europe, quelque part, qu'on forme bien les joueurs.
Non, en fait, la forme, donc.
Non, effectivement, il faut aider aussi l'Afrique, c'est ce qu'il a dit.
La forme est maladroite. Mais donc, plongeons un peu plus. Parce que quand j'ai vu que le début de la phrase, sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, Wenger? Il est fou et tout. Après, on se pose deux secondes et on prend un peu de recul. Des talents et un nombre de talents incroyables sur le continent africain, on en a très souvent, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est qu'on critique, ou plutôt on évoque et on critique, oui, parfois, les grandes infrastructures sur les terrains africains. Les stades, les pelouses, parfois les centres d'entraînement, etc. Conséquence, nombre de joueurs qui ont du talent n'arrivent pas à aller plus haut parce que, justement, soit ils ne sont pas détectés, soit, justement, ils n'arrivent pas à passer le cut, entre guillemets, en allant en Europe. Mais si on arrive à pleinement aider ces centres de formation et autres, why not? Le problème, et c'est là où Arsène Wenger, qui est directeur du développement de la FIFA, je rappelle que la FIFA donne beaucoup d'argent dans certains territoires africains pour justement le développement, mais ce développement-là, au final, n'existe pas ou peu en Afrique. Alors, est-ce qu'il doit donner, la FIFA doit donner plus d'argent? Peut-être, j'en sais rien, mais c'est là où ça me gêne un peu.
Il y a une ambiguïté dans son discours. Etienne Moati.
Arsène Wenger, il est gentil, mais si on regarde la réalité des clubs européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des joueurs africains, ils vont chercher des joueurs sud-américains, donc ils ne doivent pas être si mal formés que ça non plus. Des Mbappé, entre guillemets, il y en a sur d'autres continents. Donc, de mon point de vue, c'est une très grande maladresse. Je pense que ça part d'un bon sentiment et il essayait plutôt de caresser dans le sens du poil. Mais il y a là beaucoup de paternalisme, il y a là aussi beaucoup d'idées reçues, je pense. Et quand on voit, et d'ailleurs, Kylian Mbappé avait lui aussi froissé beaucoup la CONMEBOL quand il avait expliqué que c'était beaucoup plus compliqué finalement en Europe, les matchs étaient beaucoup plus durs, etc. Ça les a quand même fait sourire et ça les a énervés à la fois en Amérique du Sud de se dire que les matchs d'Amérique du Sud, quand vous allez jouer la Bolivie, quand vous allez jouer le Pérou dans des matchs où vous êtes arbitré d'une manière assez particulière, beaucoup plus durement que ça peut l'être en Europe, c'était pas une réalité.
Mais par contre, la réalité du football moderne, c'est qu'il est très européano-centré.
En termes de foot business, spectacle, business, les grandes affiches, la concentration des talents.
Formation, le football sud-américain est en chute libre, les championnats.
Et on le voit à la Coupe du Monde, qui gagne en ce moment plus souvent la Coupe du Monde, ou en tout cas les grandes compétitions, ce sont les nations européennes.
Toi, mais on joue au football. Sur le dos.
On joue au football aux quatre coins du globe, ou presque, et notamment en Afrique. Et heureusement, RFI le sait bien et vous fait partager ce qui se passe sur le continent en matière de football, et on pourrait s'inspirer de la passion qui règne en Afrique, en Europe. Ça ne nous ferait pas forcément du mal. Etienne Moati, merci. Salim Bangali et Chérif Guémour, on se dit à demain.
Au
de Radio Foot pour le Café des Sports. Merci Pierre-Olivier Guérin.